Elle va arriver, je pense, Estelle Fay. Elle va se mettre au bout, là. On va commencer un peu sans elle. Donc, il va s'agir des Celtes aujourd'hui. Bienvenue à tous. Je vais vous présenter nos invités. Donc, à ma gauche, Jean-Philippe Jaworski, qui nous a donc proposé des textes, romans et nouvelles qui se situaient dans le vieux royaume et qui a étonné un peu tout le monde en enchaînant ensuite avec une série donc, qui se passe dans le monde des Celtes. À ses côtés, Claudine Glo, qui est spécialiste des mondes celtiques arthuriens et merveilleux. Elle a fondé le Centre de l'imaginaire arthurien en Bretagne, bien entendu. Elle a écrit aussi des textes, une trilogie arthurienne et un certain nombre de textes pour les enfants et de beaux livres également. Alain Grousset, à ses côtés, qui est donc écrivain, on ne compte plus les livres qu'il a écrits, principalement pour les enfants. On va s'intéresser aujourd'hui à un roman qui s'appelle « Brenne le Gaulois ». Et donc, quand Estelle Fay arrivera, eh bien... Voilà. Donc Estelle Fay pour la série en fait de La Voix des Oracles chez Scrineo, qui est donc coup de cœur 2015 des Imaginales et qui est lauréate du prix jeunesse catégorie collégien, si ma mémoire est bonne, cette année. Donc pour commencer et pour éclaircir un peu le débat et ce dont il est question, Claudine Glo, qu'est-ce que c'est exactement que les Celtes ?
Bon, on est là pour une heure, donc je vais essayer de faire un peu bref, je ne suis pas toute seule. Je pense que là, quand nous allons parler des Celtes, nous allons parler de ces populations qui nous apparaissent, qui apparaissent à l'est de l'Europe, de manière à peu près certaine vers le 8e siècle avant Jésus-Christ et dont on a jusqu'à aujourd'hui des branches. Mais on va parler d'un ensemble qui est à la fois culturel, linguistique, historique à partir d'un certain moment et on ne va pas aller au-delà dans la mesure où s'il y a effectivement une culture et des langues celtiques, s'il y a des monuments et des objets d'art celtiques et s'il y a jusqu'à aujourd'hui des populations qui se revendiquent de ce monde-là, je pense particulièrement à l'Irlande, il n'y a jamais eu de royaume, il n'y a jamais eu d'empire celtique, il y a plus eu des tribus qui se battaient entre elles que vraiment des ensembles constitués. Il y a toujours eu aussi un sens très net de la migration celtique. Ce qu'on trouve en commun, je vous dis, c'est la langue, c'est une structure sociale qui se rattache à cette structure générale de la tripartition, avec une particularité chez les Celtes, c'est que le religieux est premier, le guerrier, c'est-à-dire le roi est deuxième, et ensuite le peuple, enfin les peuples d'hommes libres, ne les idéalisons pas complètement, il y avait des hommes libres, mais tous les hommes n'étaient quand même pas égaux. On a un début des sociétés un peu égalitaires par certains côtés, mais ne faisons pas des Celtes les créateurs de la démocratie, mais il y a surtout une continuité dans le temps de thèmes mythiques, mythologiques et d'une histoire qui est parfois mythifiée, qui est tout à fait propre au monde celtique. Ensuite, on a une archéologie très particulière, par exemple, à partir du 8e siècle, dans ce qui correspond à la région de Salzbourg, cette culture qu'on appelle le Hallstatt, là on commence à découvrir des gens qui ont un art particulier entre figuratif mais difficilement reconnaissable et tout un développement abstrait et géométrique. Et on a aussi des techniques particulières de métallurgie, des techniques liées à l'usage du cheval, des formes d'armes qui permettent, à mesure qu'on avance dans le temps et qu'on avance dans un grand éventail vers l'ouest de l'Europe, de reconnaître les passages des Celtes. Mais là encore, il ne faut pas les penser, là je me place non pas dans une optique d'épopée qu'on pourrait écrire, bien sûr, mais dans l'optique de ce que nous dirait plutôt l'histoire ou l'archéologie, on a des populations qui avancent lentement. Ce n'est pas Attila en train de conquérir ou d'écraser l'Europe d'un coup. Ce sont des populations qui vont s'installer, qui vont se fondre, qui vont se mélanger. Certains traits subsisteront longtemps. Et vous nous disiez tout à l'heure, j'ai remarqué, en Bretagne, évidemment. Oui, mais ça aurait pu être dans le Cantal, évidemment. Vercingétorix, puisqu'on parle des Gaulois, n'était pas en Bretagne. Les plus belles tombes celtiques ne sont pas en Bretagne. Donc, c'est, je pense surtout qu'il faut bien penser les Celtes comme un des peuples qui fondent notre Europe et dont la culture et dont les contes sont tellement puissants, je crois, tellement inspirants qu'on va les retrouver dans un retentissement qui est dans le monde entier. Et on va trouver des gens de l'autre côté du monde. Moi, je suis toujours fascinée, par exemple, par l'attrait qu'exerce la culture celtique sur les Japonais, qui pourtant ne sont pas, qui ne manquent pas d'une grande culture de leur côté. Donc voilà, les Celtes, il faut bien les penser, un ensemble culturel et un grand éparpillement des hommes.
Donc les... Les Gaulois donc, dont il sera question sont des Celtes et tout ce qui entoure le roi Arthur sont des Celtes aussi.
Oui, je ne veux pas marcher sur vos territoires, mais oui, les Gaulois sont des Celtes. Alors il y a tout un débat actuellement qui provient peut-être un peu d'une mauvaise interprétation des textes de César. Vous savez, on n'a pas beaucoup de textes sur les Celtes et ils sont jusqu'au 6-7e siècle, ils sont écrits par des étrangers aux Celtes. Donc quand César parle des Celtes, il a de bons renseignements, ce n'est pas du tout un ignorant, c'est quand même un général romain qui parle d'un peuple étranger et d'un peuple qu'il veut conquérir, mais d'un peuple avec lequel Rome a déjà des liens très étroits, surtout dans la partie proche de la Méditerranée, proche des Alpes. Voilà. Mais les Celtes, c'est tout cet ensemble. Les Grecs à l'autre bout les appellent Keltoi, on retrouve bien le mot Celte. En Gaule, dans notre région, on va appeler une partie d'entre les Gaulois, une partie d'entre les Celtes, mais les Belges sont un peuple Celte. Vous voyez, il y a d'autres noms, mais indéniablement, les Gaulois sont des Celtes. Et le roi Arthur, c'est autre chose. Le roi Arthur est une construction littéraire. Quand on commence à parler du roi Arthur, on a toute une matière qui est bien entendu orale, puisque la civilisation celtique, tant qu'elle n'a pas rencontré le christianisme, est une civilisation volontairement orale. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas écrire, c'est parce qu'ils ne veulent pas écrire. Il y a aussi un présupposé philosophique là-dedans. L'écriture est quelque chose qui fige, qui arrête, alors que la pensée et le monde sont toujours en mouvement. Mais tout ce qu'on sait du roi Arthur, on le trouve vraiment, on parle du roi Arthur à partir du moment où il y a littérature. Avant, on a de vagues évocations d'un guerrier Arthur, dont on s'efforce très souvent de prouver l'historicité. Alors, ça peut être très intéressant pour la littérature, pour construire un roman, mais il faut bien voir que l'historicité du roi Arthur est bien souvent liée à une revendication nationale et le plus généralement parlant, anglaise.
Donc là, les périodes évoquées dans ces romans est vaste, puisque dans Roi du Monde, on est au 6e siècle avant Jésus-Christ, Braine le Gaulois au 2e siècle après, et La Voix des Oracles au 5e siècle après Jésus-Christ. Estelle Faye, est-ce que vos personnages dans votre série sont celtes avant tout ?
Alors en fait, non, pas du tout. Voilà, donc déjà ça s'est fait. C'est vrai que quand je me retrouve face notamment à deux très grands spécialistes de la période, comme Jean-Philippe Jaworski et comme Claudine Glose, je me sens un petit peu petite à cette table. Et non, justement, mes personnages sont dans l'Antiquité tardive, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu plusieurs couches en fait sur le monde celte. Il y a eu une couche romaine, et même dans le sud, cette couche romaine se mélange de énormément de choses. Et il y a en plus donc une couche de barbares, de germains qui arrivent et qui commencent déjà à faire du proto-Moyen-Âge dans le nord. Après, donc c'est au 5e siècle, en gros, l'Empire romain est devenu chrétien. Et c'est pour résumer. Mais dans ce monde chrétien, quand même, d'anciennes traditions perdurent et qui, oui, pour certaines, justement, remontent aux traditions celtes. Et dans ce monde chrétien aussi, d'anciens dieux essayent de survivre, d'anciens dieux essayent de renaître. Et c'est là, pour le coup, que parmi ces anciens dieux et ces anciens esprits, on trouve du dieu et de l'esprit celte qui, quand même, n'est pas tout à fait décidé encore à laisser la place qui existe encore dans l'esprit des hommes. Et comme ils existent encore dans l'esprit des hommes, ils existent dans le monde aussi. Voilà.
Alain Grousset, est-ce qu'il est celte, votre Gaulois ?
Ben, jusqu'à aujourd'hui, je n'en savais rien. Et c'est pour la conférence que j'ai découvert qu'il était celte. Je ne connais rien aux Celtes. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont choisi. Ça doit être à cause de ma barbe, j'en sais rien. Non, pour moi, il était gaulois et jeune gaulois. Simplement, ce qui m'intéressait, au-delà de son aventure qui le fait voyager à travers toute la Gaule et jusqu'à Rome, c'était un petit peu cet affrontement qu'il y avait de société entre les Gaulois et puis l'attirance de la société romaine où lui, jeune, parle déjà latin. Et voilà, il va s'opposer à d'autres jeunes comme lui qui, eux, veulent garder la tradition. Enfin bon. Un schéma tout à fait classique. Aujourd'hui, c'est pareil. Il y a des gens qui freinent, il y a des gens qui avancent. Et voilà, c'était ça. Mais alors, par rapport aux grands spécialistes, si toi, tu es petite, moi, je suis minuscule.
Et vous aviez envie de rendre accessible, en fait, cette période-là aux jeunes lecteurs, parce que ça s'adresse vraiment aux jeunes lecteurs ?
Donc, lorsqu'on écrit plein de livres pour la jeunesse, à un moment ou à un autre, on a envie de faire un livre sur l'Égypte, on a envie de faire un livre sur les Gaulois, enfin bref, de remonter dans le temps, c'est-à-dire de retourner à l'école primaire que l'on a connue et avec des moments historiques qui nous plaisent. Bon, le tout, c'est de trouver un angle d'attaque puisqu'il y a déjà eu des centaines de livres qui ont été faits. Alors bon, pour l'Égypte, j'ai trouvé l'astuce d'un magicien parce que là, j'ai un camarade, un ami qui est prédigitateur et qui m'a dit que l'Égypte, là, commençait à jouer la magie avec les gobelets et puis que les prêtres étaient très très forts en physique pour influencer les foules en faisant ouvrir des portes avec du feu et d'un système hydraulique. Donc voilà, j'ai parti là. Et là, ça m'intéressait, c'était une histoire avec des chiens. Ça me plaisait d'avoir un chien parce qu'ils étaient très amateurs de chiens aussi.
Et oui, il voyage avec voilà. Deux bon, chiens, votre personnage.
C'est mon Tamagotchi, excusez-moi. Il est là-bas, mais ça va. Ça va se tasser. Excusez-moi.
Il voyage en compagnie de ses chiens et oui. Ils vont lui être utiles à la fin. Quoi.
Ah oui, ils vont être tout à fait utiles puisqu'ils vont, ils vont participer à des combats de chiens pour gagner énormément d'argent pour pouvoir racheter sa sœur, la sœur du héros, qui est esclave. Voilà, c'était ce thème-là.
Claude Inglot, vous aussi, vous écrivez pour la jeunesse, vous écrivez sur les fées, vous avez romancé un peu leurs histoires pour des jeunes lecteurs. C'est important pour vous d'écrire cette légende pour les jeunes lecteurs, de leur faire connaître ?
C'est essentiel. C'est essentiel d'abord parce que moi, je fais partie des gens qui estiment qu'on a la chance d'avoir reçu tout ce qu'on a reçu. On a tout un patrimoine qui est riche, qui est beau et que c'est vraiment dommage de ne pas le faire, de ne pas le transmettre. Donc il se trouve qu'il y a des choses que l'école ne peut pas assurer, elle ne peut pas tout transmettre. Donc à notre tour, quand on a un monde qu'on aime, de le dire. Donc c'est vrai que j'ai fait cette série sur les fées, qui était romancée quand même un petit peu, c'est-à-dire que je repartais de personnages de la légende arthurienne, donc de personnages très très profondément celtiques, qui relèvent des anciennes mythologies celtiques, notamment Morgane et Viviane, surtout Morgane, mais ce sont des choses à trous, c'est-à-dire qu'on prend des éléments dans des romans, ça s'étale sur 4 siècles, des auteurs différents, des présupposés différents, une relation différente à la religion, donc on a des morceaux, donc moi mon travail c'était, je vais faire une comparaison je vous disais que les grands et les tout petits, je vais me mettre dans l'état du tout petit, ce qu'avait fait Marion Zimmer Bradley avec une infinie intelligence, c'est-à-dire qu'on prend ce qu'on connaît, et puis avec ce qu'on peut imaginer de plausible, on remplit les trous. Donc par exemple, pour donner un exemple précis, Viviane, on nous parle toujours de la fée Viviane, c'est la fée de fille d'un roi, elle est fée, mais on ne sait pas comment elle est fée, elle rencontre Merlin, ça on connaît bien l'histoire, mais personne ne demande jamais comment elle est née. Donc moi j'ai eu envie de lui donner une mère, une naissance, et j'ai été chercher dans les contes irlandais ces histoires de fées qui viennent un temps rencontrer un homme, qui lui font sa richesse, son bonheur, qui lui font parfois des enfants, et puis qui repartent dans cet autre monde celtique qui est toujours là sur notre limite. Mais oui, pour moi, c'est très important. Et vous parliez du centre arthurien. C'est la moitié de notre travail au centre arthurien. Pas seulement moi, mais toute mon équipe, que j'ai une équipe formidable. C'est de parler aux enfants, de le transmettre à tous les enfants sous toutes les formes possibles, parfois extrêmement simples, mais de leur dire, voilà, ça existe. Et dans l'espoir, nous, notre espoir, c'est qu'ils continueront tout seuls sur cette voie-là. Qu'ils en garderont un petit quelque chose.
Alors, nous tous ici présents, on a été des enfants et des jeunes lecteurs. Vous avez lu, vous, par exemple, Jean-Philippe Jaworski, vous avez lu des textes comme ça quand vous étiez enfant, avant de devenir le grand spécialiste que vous êtes?
Moi, je pense qu'en ce qui concerne les Celtes, et tout particulièrement ceux de l'Antiquité, on ne peut pas être un grand spécialiste, parce que la matière dont on dispose est tellement lacunaire que, de toute façon, on est forcé à la spéculation et aux hésitations. Et en fait, je me rends compte que dans mon enfance, oui, j'ai lu beaucoup de matière de Bretagne. Donc on en revient à la matière celtique, mais tardive finalement, la matière celtique médiévale et littéraire. Hein. Mais à part les grands clichés 3e République sur Vercingétorix et César... Non, j'ai pas été très familiarisé. Enfant, j'ai été littéralement submergé par la mythologie grecque, la mythologie latine, dans une approche qui était très scolaire et très parascolaire. Et en fait, les mythologies d'Europe du Nord, j'ai commencé à les découvrir à travers la mythologie scandinave, avant de revenir. Alors bien sûr, il y avait le monde arthurien que je découvrais enfant à travers des romans de vulgarisation, hein, des réécritures à destination des enfants du monde arthurien. Mais je ne comprenais pas à cette époque-là, je les lisais comme des romans d'aventure et je ne comprenais pas qu'il y avait un vrai terreau mythologique qui était à la source de ces récits-là. Et ça n'est que tardivement, c'est-à-dire à la fin de l'adolescence, que j'ai vraiment commencé à réaliser qu'il y avait une matière extrêmement riche, extrêmement ancienne aussi, qui était derrière tout ça.
Et qu'est-ce qui vous intéresse le plus, alors, en fait ? Est-ce que c'est la légende ou est-ce que c'est l'histoire ?
Les deux. Les deux. On est à la croisée, on est dans le mythe. Le mythe, c'est du récit. Alors, on est ici dans une espèce de terra incognita, très brumeuse, parce que justement, les données sont extrêmement lacunaires. Donc, pour un romancier, moi, je me définis comme romancier, absolument pas comme spécialiste. Pour un romancier, c'est fabuleux. C'est fabuleux, on a une espèce de paysage qui se dessine vaguement, un certain nombre de repères, il y a des trous dans tout ça, on va essayer de meubler tout ça. Hein. Et puis, on est dans l'histoire, on n'est pas dans l'histoire, dans le monde celtique antique, tout simplement parce que, comme le disait Claudine, ils n'écrivent pas, donc il n'y a pas d'histoire. Alors on est dans l'histoire au sens courant, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans le roman, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs, c'est que c'est grâce au roman que la matière de Bretagne nous est diffusée. C'est-à-dire que ce sont des romanciers qui s'emparent d'une tradition qui est déjà en pleine mutation, à moitié effacée, et puis qui vont commencer à la poser par écrit. Mais du coup, notre approche de la tradition celtique, les premiers grands textes, alors là je parle des textes en ancien français, c'est 11e, 12e siècle, ces premiers grands textes ne nous sont pas fournis par des historiens, mais par des romanciers. Et on sait en France que de toute façon, il existe déjà une tradition orale qui est antérieure. On le sait en particulier grâce aux registres paroissiaux, parce que avant les premiers textes où on voit apparaître Tristan, Iseut, Arthur, les chevaliers de la Table Ronde, qui sont des personnages de la matière de Bretagne, donc des personnages celtiques, on voit se diffuser en Europe de l'Ouest des prénoms arthuriens. Et ça, c'est à partir du XIe siècle. Donc, je laisse la parole à Claudine.
Je voulais juste compléter ce que vous disiez avec c'est européen, parce qu'avant les romans, on a les sculptures identifiées en Italie.
Donc en fait, c'est une matière romanesque.
Roman historique, ça vous va pas pour vous, vous en faites quoi de...
Non, je vais pas jusqu'au roman historique. Même si ma façon de travailler ressemble vraiment à celle d'un romancier.
Vous commencez par travailler l'histoire.
Je me documente ça. Alors, je ne vais pas jusqu'au roman historique, parce que dans le roman historique, il y a histoire. Et que l'histoire nécessite enquête, c'est-à-dire une démarche rationnelle de la personne qui va chercher des informations et qui va les vérifier, c'est-à-dire qu'il va avoir une démarche expérimentale. Et à partir de ce moment-là, on risque de rationaliser le récit, de vouloir fournir une explication au lecteur, et ça ne correspond pas au peu que je peux comprendre sur le fonctionnement de la mentalité celtique. Donc je rejette la notion de roman historique et je revendique la notion de roman de fantaisie, parce que dans la fantaisie, le merveilleux est admis et que les Celtes, Claudine le rappelait tout à l'heure, c'est le religieux qui prime chez eux, c'est-à-dire le surnaturel fait partie du quotidien. La fantaisie admet le surnaturel comme étant une composante normale du récit. Donc mes romans, même s'ils sont documentés, sont de la fantaisie, parce que le surnaturel, il y a quelque chose de complètement quotidien, de complètement intégré au fil de l'action. Et ensuite, c'est au lecteur de les lire comme il les veut, mais les lecteurs peuvent bien sûr lire ces romans comme des romans historiques. Mais pour moi, les lire comme des romans historiques, c'est déjà commencer à s'écarter de la perception que le Celte avait sur le monde. À la limite, je préférerais qu'on les lise comme des romans anthropologiques, même si c'est très pédant, c'est-à-dire des romans dans lesquels on essaye d'adopter le regard du Celte ancien, plutôt que d'adopter le regard du contemporain qui essaye de comprendre, grâce à la fiction de façon agréable, ce qu'étaient ces sociétés anciennes.
Vous partagez ce point de vue, Estelle Fay, la période que vous abordez est plus récente, donc plus documentée, j'imagine.
Alors, disons, il y a des bouts de ce point de vue qui... qui me parle, donc notamment le fait que la littérature, et a fortiori littérature de l'imaginaire, peuvent nous faire sortir justement de notre carcasse 21e siècle et nous plonger vraiment dans le point de vue, dans la mentalité, dans la façon de voir le monde des gens de cette époque, avec justement cette croyance au merveilleux qui apparaît vraiment dans les romans. Et ça, c'est vraiment le côté fantasy et que je partage totalement. Après, sur le roman historique, peut-être parce que je l'ai lu à une époque différente, mes premiers romans historiques, peut-être parce que je l'ai vécu différemment. Là, par contre, pour moi, le roman historique, c'est pas du tout quelque chose qui rationalise. Au contraire, c'est vraiment la partie histoire, la partie historique, c'est beaucoup plus déjà donner une matérialité au monde et vraiment, comment dire, faire que le lecteur avance les pieds dans la boue des chemins de forêt de cette époque, que vraiment il marche dans les rues donc de Paris au 5e siècle et qu'il sente les odeurs de nourriture qui s'échappent des petites boutiques sous les arches, que vraiment il joue au latroncule qui donc est le jeu de dames de l'époque avec les personnages, que avec eux aussi il soit plongé dans les bas quartiers de Rome et que vraiment il voit des formes dans l'ombre se faufiler dans les ruelles de Subur. C'est vraiment ça le roman historique pour moi. C'est quelque part aussi ce que j'aime dans la fantasy, c'est-à-dire marcher dans un autre monde et vraiment vivre dans cet autre monde. Et dans la documentation, après, c'est la manière dont chacun la vit aussi. Je la vis beaucoup comme une chasse au trésor. C'est-à-dire trouver la bonne information, trouver vraiment ce qui va faire que... comment se fait telle et telle arme, par exemple, si ça peut aider à faire justement une scène de combat qui sonne différemment, qui sonne plus réaliste, qui soit pas donc... En gros, la scène de combat obligée, mais vraiment un endroit où le choc d'un glaive romain contre une épée germaine, par exemple, produise quelque chose à la fois de vrai, de concret, que le lecteur peut tout de suite ressentir, qu'il peut tout de suite s'imaginer, et en même temps quelque chose qui n'est pas vu et revu 200 fois. Donc voilà, disons, la manière dont je vois l'histoire, ça ne rationalise pas, ça donne juste plus de matière, et ça m'intéresse.
À moi. Non, le roman historique, moi j'aime bien. J'écris beaucoup de science-fiction et de temps en temps je fais un roman historique pour me laver un peu la tête. Au lieu d'imaginer le monde de A jusqu'à Z, je trouve ça très reposant, mais bon, comme je suis un structurant, c'est-à-dire que j'ai besoin de tout savoir avant de commencer, fouiller dans la documentation me passionne. À partir de là, après, il y a une interprétation qui est liée à notre société. C'est-à-dire que lorsque je m'adresse à des enfants d'aujourd'hui, moi qui ai un peu de bouteille, je n'écris plus tout à fait pareil qu'au début lorsque j'écrivais, où je m'adressais, j'allais dire, aux parents des enfants que je rencontre maintenant, puisque ça fait 30 ans, ceux-là, ils sont passés. D'ailleurs, ça m'arrive fréquemment que des gens d'un certain âge viennent me voir, « Ah, j'ai tellement adoré ça en cinquième, ça me... ça fait mal. » J'ai une anecdote comme ça, on était deux avec Christian Grenier, qui est un grand auteur jeunesse, et... Donc ça m'arrive, il me dit, ça fait mal. Il me dit, je vais t'en raconter une. Moi, c'est une jeune fille qui arrive avec un livre et qui dit, est-ce que vous voulez bien le dédicacer? Il dit oui. Il ouvre le livre, il dit, mais je l'ai déjà dédicacé. Ah oui, mais c'est à ma mère. Et donc ça ne rajeunit pas. Donc là, voilà, le roman historique, on l'adapte à la société d'aujourd'hui. Et moi, là, dans le récit, il faut que ça soit beaucoup plus percutant qu'avant. Il faut effectivement que je mette moins de pincées historiques. Il faut que tout l'intérêt, c'est d'avoir notre bagage et puis après de dire un moment stop dans la documentation, parce qu'on peut toujours fouiller en trou de ver, on peut toujours aller plus loin. Et je rencontre systématiquement, lorsque je vais aux archives départementales et tout, des gens que je connais depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'ils cherchent pour faire un livre. Mais ils ne le feront jamais, ce livre. Parce qu'il leur manque toujours un petit quelque chose pour commencer. Mais en fait, ça, c'est la trouille de l'écriture. C'est que ça. Donc, il y a des rats de bibliothèque qui passent leur vie à chercher de la documentation pour en faire un livre et qu'ils ne le feront jamais. Donc, à un moment, il faut dire stop. Et puis, il faut s'adapter. Donc, il faut chercher, comme tu dis, des petites pépites. Alors, les petites pépites, c'est... oui, à Rome, il y a des jars où on... Les hommes font pipi dans ces jars-là parce que l'urine est récupérée par les tanneurs de peau pour faire les peaux. C'est vachement important pour eux. C'est ça qui fait tomber les poils sur la peau. Donc, et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait des restaurants à buffet à volonté. Donc ça, je le mets aussi parce qu'on payait et on mangeait tout ce qu'on voulait dans les plats. Et tout. Donc c'est ce genre d'anecdote qui m'intéressait.
Et vous avez votre Gaulois, il se lave deux fois par jour.
Oui, mais il est propre.
Ça a bien changé depuis quand même, les garçons qui
oui,
se lèvent deux fois
là,
par jour.
Oui, c'est une tradition aussi un peu romaine aussi. Donc voilà, oui, là non, les parfums ont remplacé les bains. Mais non, l'eau était très importante parce qu'il veut coller un peu aussi à ce gallo-romain qu'il est. Quoi. Et donc, c'est vrai que les Italiens, les Romains ont été les champions du monde de l'eau, quoi. Il n'y a aucun problème là-dessus.
Et vous êtes aussi beaucoup axé sur l'action. Il y a l'idée de voyage, en fait. Vous faites voyager vos personnages.
Oui, c'est un road movie à travers la Gaule, donc en visitant toutes les régions et puis en mangeant aussi un peu, parce que je fais manger tous mes héros dans tous mes livres. Je ne sais pas d'où ça vient. mais c'est pour les rendre encore plus vivants, quoi. Voilà. Mm-hmm.
Estelle Faye, vous aussi, vous avez choisi cette structure de voyage comme ça. Vous vouliez faire... bouger vos personnages.
Alors, déjà, si je peux permettre deux petites choses. Oui, la nourriture, c'est super important. Je suis aussi d'accord. Mes héros mangent beaucoup. Et en plus, l'une des beautés du roman historique, c'est qu'on peut essayer de cuisiner ce que mangent nos héros. Alors que pour le steak de dragon, c'est plus difficile. Et aussi sur la création d'univers, si je peux me permettre encore 30 secondes, il y a une citation de Mathieu Gaborit que je pense qu'il ne doit pas être un nom inconnu pour des gens ici. Grand auteur de fantasy française, et qui dit quelque chose qui pour moi s'applique aussi beaucoup à la fantasy historique, au roman historique. Et en gros, il dit que l'univers doit clignoter en fond de l'histoire et pas être une toile trop éclairée, en fait, sur laquelle on braque toute la lumière. Il le dit un peu mieux que ça, mais c'est en gros, c'est ça l'idée, et c'est vraiment une phrase qui m'a beaucoup marquée et que j'essaye d'avoir en tête toujours quand j'écris, pour justement pas se perdre dans un luxe de détails inutiles, mais que l'univers soit au service de l'histoire et des personnages. Et pour venir sur la structure de voyage, les romans, et notamment les romans historiques, pour moi, c'est la meilleure machine à voyager dans le temps. Donc déjà, il y a un voyage, il y a ce côté de partir avec les héros sur les routes de ce monde inconnu, dans cette époque dont on ne connaît rien. Et puis en plus, la structure, là, pour le coup, la voix des oracles, c'est aussi surtout le premier tome du roman initiatique, au sens classique du terme, c'est-à-dire vraiment ce personnage donc, de Tia qui a vécu en recluse, qui connaît du monde que ce qu'elle a appris dans ses livres et qui va être jetée sur les routes, qui va entreprendre une quête vraiment qui doit l'amener donc, dans la forteresse des Vosges, ici, où autrefois son père a fait une grande victoire. Et c'est ce côté, déjà, le roman de voyage, quand il y a un but que le personnage doit atteindre, ça donne un but très fort au personnage pour lequel il est prêt à surmonter tous les obstacles. Donc ça donne une vraie tension, ça donne une vraie dynamique à l'histoire. Et ça, j'aime beaucoup. Et en plus, en chemin, on voit des paysages fabuleux. On fait des rencontres vraiment qui changent aussi le personnage. Les rencontres et les voyages nous changent. Et ça, pareil, pour un roman, c'est une superbe matière.
J'ai une recette. Je mets toujours un voyage géographique, un voyage technologique et un voyage initiatique. Voilà, c'est les meilleures recettes pour faire un récit qui plaise aux jeunes.
Jean-Philippe Jaworski, comment, alors on sent bien qu'Estelle est plutôt dans la sensation, je veux dire, elle parle des odeurs, des chocs, des épées, etc. Et donc avec cet univers qui clignote derrière, comment vous situez-vous vos personnages? Vous voulez restituer une mentalité?
Oui, je me reconnais bien dans ce que dit Estelle. Moi, je me définis comme un pillard, c'est-à-dire que je fonds sur ma documentation, je me comporte absolument pas en chercheur, je suis pas rationnel, je vais chercher aussi ce qui est exploitable. Je ne sais pas dans quel sens ça se passe là, par contre, entre l'éditeur et moi. Mais en tout cas, je me reconnais bien là. Alors oui. C'est peut-être très ambitieux, mais en plus, j'aimerais bien essayer de restituer la mentalité, au moins du narrateur, qui est le personnage principal, parce que c'est une autre forme de voyage. Là, pour le coup, c'est d'essayer de se déprendre. Je vais poser ça différemment. Le monde celtique antique, je l'ai fait jouer. Je suis rôliste. Et comme je me suis passionné pour le monde celtique antique, j'ai créé mes règles de jeu pour jouer des Celtes du premier et du deuxième âge du fer. Et là, j'avais fait jouer mes joueurs au début du deuxième âge du fer. J'avais un groupe de 4 joueurs, j'en avais 2 qui jouaient vraiment des gens à nos yeux complètement irrationnels, qui croyaient aux présages, qui étaient sensibles aux oracles, à la présence des dieux, etc. Et j'en avais 2 autres qui jouaient des investigateurs de l'appel de Cthulhu, c'est-à-dire des enquêteurs rationnels. Et c'était gênant, ça. Il y avait des signes divins, ils n'en tenaient aucun compte, superstition, etc. Et donc j'avais affaire à 2 Français du XXIe siècle au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc dans mon roman, ce que j'essaye de faire, c'est d'adopter la perspective de l'homme de la période archaïque qui raconte son histoire de cette façon-là. Et j'essaye de miser sur le phénomène d'identification du lecteur au personnage pour offrir au lecteur une autre forme de voyage. Alors certes, mes personnages voyagent, mais bon, la temporalité est déconstruite parce que la temporalité du monde celtique n'est pas la nôtre non plus. Donc j'essaye d'offrir au lecteur un dépaysement différent, essayer de se mettre à la place de quelqu'un qui voit le monde avec un regard différent du nôtre.
Et comment vous la percevez, cette perspective-là de ces peuples si éloignés ? Comment vous en approchez vous-même ?
C'est très très difficile. C'est très difficile parce que on est formaté, et moi je formate aussi mes élèves à un rationalisme, donc c'est très difficile d'essayer de s'abstraire. Alors j'ai quelques repères, déconstruire le temps, mélanger le rêve et la réalité, ne pas établir de distinction. Alors déconstruire le temps, c'est déconstruire le temps aussi parce que c'est le personnage principal qui raconte son histoire. Donc il va mélanger ce qu'il a compris de son histoire, donc sa propre reconstruction de son histoire avec la réalité. Il mélange ses croyances à son histoire. Sa mémoire, donc il dit qu'il a deux siècles hein, quand il commence à raconter sa vie, c'est-à-dire 60 ans. Sa mémoire, bien sûr, lui joue des tours. Et puis, en même temps, c'est un conquérant, donc il est très assertif, il est très sûr de lui. Donc il délivre comme une vérité ce qui correspond, en fait, à une reconstruction de son histoire à ses yeux. Alors, il faut que j'essaye de me couler dans la peau d'un personnage pour qui le surnaturel est quotidien, presque banal. Si banal d'ailleurs que ce n'est pas la peine de le signaler. C'est normal de croiser un être surnaturel. C'est normal pendant les trois nuits de Samonios que les morts reviennent et puis s'attablent avec lui. Donc il ne le signale pas. C'est à certains indices que le lecteur peut sentir qu'on n'est plus tout à fait dans un monde rationnel. C'est surtout, oui, par ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait que chez les Celtes, il y a finalement très peu de distance entre ce monde et l'autre. C'est ce passage permanent entre un monde très très concret et tout ce que tu citais, Estelle, hein, sur les détails extrêmement concrets. Moi aussi, je les recherche et puis quand j'en trouve un, je suis super content parce que ça donne du corps au texte. Et puis à côté, je vais glisser une figure merveilleuse. Et je vais souvent, alors ce que je fais, c'est que je reprends des thèmes traités par la littérature médiévale, donc des personnages traités par la littérature médiévale, et puis je les archaïse. J'essaye de reconstituer à partir du nom britonnique ou du nom en ancien français, j'essaye de reconstituer le nom gaulois. Un barde, à un moment donné, évoque l'histoire de, alors, je ne suis même pas sûr de prononcer ça correctement, de Blodoued. Et j'ai repris la racine et je l'ai archaïsé en blatouna gaulois. Et je le fais avec un certain nombre de personnages pour essayer quand même de ne pas créer complètement l'imaginaire, mais de reprendre un certain nombre de mythes qui ont été traités dans la littérature médiévale et puis leur donner un aspect plus ancien, plus archaïque et les prêter à des hommes, des celtes, des bardes, des guerriers du premier âge du fer.
Je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord avec toi dans ce monde de rationalisation que l'on est et dans ce monde qu'on décrit là, avec les Celtes et tout. Moi, je trouve au contraire que la société passe aussi de l'irrationnel très vite au rationnel. Je ne sais pas si un Celte venait nous voir aujourd'hui, qu'est-ce qu'il penserait, que nous sommes connectés aux dieux parce que nous nous baladons avec l'iPhone et que toutes les 30 secondes, on jette un regard dessus, qu'on a ce monde numérique complètement... qui nous entoure et puis à côté. Enfin, toi, je trouve qu'il y a de plus en plus d'interactions. Moi, je les sens pas vraiment très, très différents de nous. Ils ont quand même des réactions d'amour, du plaisir de la nourriture. Ils ont découvert le pinard et c'était très bien. Bon, voilà.
Ce sont des gens très concrets, mais qui ont quand même une explication religieuse du monde. Alors, la question que tu soulèves, en fait, c'est la question du sens de la religion. Il y a deux sens dans la religion. Tout ce qui est numérique, ça correspond à une religiosité horizontale. Hein. Une des fonctions de la religion, c'est de relier étymologiquement. Donc, ça nous lie. Hein. Mais le numérique, sauf si on adhère au transhumanisme, qui voit une espèce de transcendance technologique de l'homme possible, le numérique, a priori, ne fournit pas une explication sacrée du monde.
Mais en plus, on n'a pas besoin, et je pense que ce n'était pas leur projet, d'expliquer. C'était le ressenti et c'était comment on pouvait mieux vivre avec. Et je pense qu'il y a, deux choses essentielles dans ce que vous avez évoqué. Il y a le mouvement, dans vos romans, la quête. La quête est quand même une invention, les imramas, les voyages sacrés, la quête, notamment la quête du Graal, ça c'est quelque chose de très celtique et qu'on continue à retrouver. Je ne dis pas qu'on est celte parce qu'on part à la quête de quelque chose, mais on voit bien qu'à intervalles réguliers, et quand la société nous cerne trop de technologie justement, de bien-être, d'avoir pour seul projet ou l'enrichissement ou le mieux-être quotidien, eh bien on voit qu'il y a ce mouvement, on l'a connu dans les années 70. C'était une autre façon. On voyageait par des petites choses qui vous envoyaient dans un monde lointain rien qu'en les fumant, ou on partait à Katmandou. Mais c'était ce mouvement de sortir. Voilà, on recommence à partir à Compostelle, et pas uniquement parce qu'on est un pilier de l'Église. Il y a autre chose aussi qu'il faut rappeler, et qui est tellement fort dans le monde celtique, c'est le lien à la nature et à la forêt. Et moi, je me rappelle, je n'ai rencontré que rarement, et je le regrette, quelqu'un qui s'appelait François Terrasson, qui écrivait des livres, qui était un précurseur de l'écologie, qui expliquait entre autres la peur que nous avons de la nature, même quand on l'aime. C'est-à-dire qu'il expliquait toujours qu'on aime la nature, mais au minimum domestiquée, mais que personne n'aime les mauvaises herbes, les ronces des talus. Et il avait une expérience qui était extraordinaire. Il était au Muséum d'Histoire Naturelle. Il avait donc des étudiants qui étaient des doctorants. En fait, c'était des gens qui avaient déjà une réflexion, une recherche. Et il les balançait une nuit, tout seul, sans rien, au milieu d'une forêt. Et bien là, je peux vous dire que le celte et peut-être même le néolithique étaient là. On est à la fois très différents, mais je suis persuadée qu'on retrouve assez facilement, dans les conditions extrêmes, parfois dans des conditions extrêmes qui ne sont pas très enviables d'ailleurs, les grands mouvements de la nature nous renvoient aussi, les grandes terreurs naturelles nous renvoient à cet esprit-là. Et je pense que l'esprit celtique aussi ne peut pas se détacher d'un lien très fort à la nature, qui est justement différent de celui du monde gréco-latin, qui est déjà le précurseur de ce qui sera notre esprit rationnel français. La nature, il faut quand même elle doit obéir. Dans le monde celtique, on va avoir peut-être plus de souplesse dans cette relation à la nature. Et je pense que c'est aussi pour ça que ce monde nous parle aujourd'hui, parce que bon, on essaie de relier, de retrouver le lien brisé. Un personnage comme Merlin est exactement, Bormann le dit bien dans son film, quand il dit qu'il l'a connu, voilà, c'était le nom, l'époque où le monde était jeune, où on comprenait le langage de toute la nature. Et c'est, je pense, ce chaînon manquant aussi qu'on recherche quand on s'en va vers le monde celtique. Et je pense que là, on peut peut-être encore recréer. Il y a des choses qu'on ne recréera pas, bien sûr, le sentiment social, le sentiment religieux, point par point, mais il y a une partie qui peut se retrouver. On n'a pas tout perdu. Je ne sais pas si c'est le reptilien ou autre chose qui l'a gardé, mais on n'a pas tout perdu de ça.
Alors, pour en revenir au sous-titre de ce café littéraire, en quoi est-ce que ces Celtes font partie de notre héritage ? Est-ce qu'ils font partie de notre héritage français, pour le coup, voire de notre identité nationale ? En quoi ?
Alors, j'ai bien connu un professeur qui était un grand celtisan, je passerai au voisin après quand même, qui était un grand celtisan, qui était le grand celtisan français en ce sens qu'il parlait toutes les langues, qu'il connaissait toutes les langues celtiques à tous leurs états. Il s'appelait Christian Guillonvard, il est décédé il y a quelques années. Et il avait une formule, quand je l'avais rencontré, qui m'avait frappé. Il disait, dans un pays, il parlait de la France, qui a été aussi celtique que Rome, que Rome fut latine, il y a un degré de méconnaissance au-dessous duquel on n'a pas le droit de descendre. Et il voulait juste rappeler qu'une de nos identités, une partie du patrimoine français, de l'héritage français tel qu'il s'est constitué, tel qu'on l'a aujourd'hui, est gaulois. Voilà, c'était son discours. Et étant gaulois, se rattacher au reste du monde celtique. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui va revenir en France au XVIe siècle. On commence à se pencher sur nos ancêtres les Gaulois. Et on va le retrouver aussi au XVIIe siècle de manière assez curieuse dans cette querelle un peu savante qu'on appelle la querelle des anciens et des modernes, mais qui dit en gros d'un côté, pour les tenants des anciens, hors Rome et la Grèce, point de salut, ils ont tout fait, ils ont tout accompli, leurs temples sont merveilleux, leurs pensées philosophiques sont parfaites et on ne fera pas de plus beau discours que Cicéron, en gros c'est ça. Et de l'autre côté, il y en a qui disent, mais non, ce pays, c'est-à-dire la France, a son génie propre. Et son génie propre, ce sont ses vieilles histoires. Alors, on les attribue au peuple. C'est plus compliqué que ça dans la mythologie celtique. En fait, c'est une oralité qui n'est pas seulement populaire, qui est aussi savante. Mais disons qu'au XVIIe siècle, on la considère comme le génie venu du peuple, du sol, et ça va participer de toute une élaboration d'une image, qui est aussi une image de la littérature, et une image nationale. Et c'est ça, justement, qui va opposer les anciens et les modernes. Et dans les contes de fées, puisque, bon, dans cette histoire des fées, voilà, on a nos pépites, on a tous nos pépites. Hein, ça va être un mot, ça va être une façon de manger, ça va être un vêtement. Moi, une des pépites que j'ai trouvées, c'est que, par exemple, dans les contes un peu très chantournés, très chargés que les femmes, les grandes femmes écrivains de contes de fées qui écrivaient, parce que c'est tout ce qu'on leur laissait écrire d'ailleurs, comme Madame d'Aulnoy et autres, eh bien, elles faisaient très souvent intervenir des druides. Pensez à l'Astrée, dont on dit que c'est le plus grand roman français, enfin ça se discute avec le roman de Perceforé. Dans l'Astrée, il y a des druides. C'est-à-dire qu'on a déjà cette image d'une mémoire nationale qui s'ordonne autour de personnages, et ces druides ne sont pas des diables du tout, pas diabolisés du tout. Ils sont très positifs, ils apportent la sagesse, ils vont finir par mener au bonheur les couples méritants. Donc il y a effectivement un esprit en France, quelque chose qui se réclame de ça et qu'on va retrouver au XIXe siècle, qu'on pense au succès de ce recueil de poèmes, de chants. On peut discuter de la façon dont il est totalement authentique, un peu apocryphe ou plus ou moins, qui s'appelle le Barzaz Breiz, qui est créersard de la ville marquée, qui est un jeune noble breton qui n'a pas 30 ans quand il écrit ça, et c'est un triomphe dans les salons, et George Sand...
À quelle époque, au 19e ?
1830, c'est vers 1830, et George Sand en pleure de joie en disant qu'elle n'a jamais rien vu de plus beau. Et George Sand elle-même fait partie de ce mouvement qui, au 19e, va retrouver ce qu'on appelle, on dirait plus ça aujourd'hui, bien sûr, un peu pompeusement, le génie français. Mais dans la composante, effectivement, dans les composantes qui font notre culture aujourd'hui ce qu'elle est, qui font notre culture aujourd'hui ce qu'elle est, il y a très clairement un élément celtique ou gaulois, ce qui là se trouve synonyme.
Qu'en pense votre voisin ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Nous sommes vraiment les héritiers des Celtes, même si on l'oublie. Le paysage français jusqu'au XIXe siècle, il a été complètement façonné par le monde gaulois. Et si Rome s'est emparée des Gaules, c'était parce que c'était déjà un pays extrêmement riche qui avait été façonné par les Gaulois. Moi, je vois des résurgences extrêmement fascinantes. On évoquait tout à l'heure le fait que la matière de Bretagne, c'est-à-dire une matière celtique, nous a été livrée par écrit par le roman. Le roman, il apparaît en français au XIIe siècle, en même temps que l'art roman. Et quand on s'intéresse aux vierges romanes, on a l'impression de se retrouver devant les copies conformes des matronae, c'est-à-dire de ces déesses gallo-romaines qui étaient sculptées donc 700 ans, 800 ans auparavant. Et brutalement, le XIIe siècle, c'est la période aussi où le culte marial se répand dans la chrétienté, tout particulièrement dans la chrétienté occidentale, alors qu'auparavant, la Vierge Marie n'avait pas une très grande importance dans le christianisme. Et là, on y voit une résurgence de la figure des grandes déesses qui nous viennent du monde celtique. Au niveau de la façon dont le gaulois a structuré l'imaginaire national, alors, c'est vrai que ça réapparaît à la Renaissance, au moment où on est à la fois en train de redécouvrir l'Antiquité, mais on est aussi en train de construire l'identité française, et une identité française est gallicane. C'est-à-dire une identité française religieuse qui veut se démarquer de la primauté du pape. Et là, on a besoin de revenir à une racine antique qui ne soit pas une racine romaine. Et les Gaulois sont là. On va voir le même phénomène, enfin, un phénomène un peu semblable s'opérer au moment de la Révolution française. Au moment de la Révolution française, brutalement, on va voir réapparaître la figure des Gaulois, parce que les Gaulois, c'est le peuple opprimés par les nobles qui sont des descendants des Francs. Donc le Gaulois va devenir le symbole même du peuple français révolutionnaire et étrangement républicain contre l'aristocrate étranger qui est un Germain en fait, puisque c'est un Franc. cette récupération du... Alors, c'est vraiment pour le coup de la récupération politique et idéologique. On va la retrouver après 1870, on a déjà.
Mais même avec Napoléon III.
Même avec Napoléon III.
Parce que justement, on s'arrache vers Saint-Gétorix, dans le camp du peuple, c'est un héros du peuple, écrasé par les vilains. Et la noblesse dit, mais non, c'est la fleur de la France, c'est nous aussi. Et on trouve les derniers ennuis de Vercingétorix, c'est là, on l'écartèle. On le prend des deux côtés de l'échiquier politique.
Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les Gaulois nous sont sans doute... l'enseignement même de la Gaule est problématique, parce que ça a été un facteur de propagande sous la Troisième République, tout simplement parce qu'ils étaient constitutifs de la construction d'une identité nationale, et à partir du moment où on s'est détaché du nationalisme, le Gaulois devient une figure historique problématique, parce que ça devient une figure nationaliste. Ce qui est d'ailleurs un contresens absolu, puisqu'il n'y avait pas de nation gauloise. Mais en tout cas, oui, à différents degrés, que ce soit dans l'héritage concret, l'héritage du terroir, et aussi du vocabulaire. Alors bien sûr, le français est une langue romane, donc l'essentiel de son vocabulaire est d'origine méditerranéenne, mais il y a quand même des mots en français. Alors il y a beaucoup de mots qu'on a oubliés, parce que ce sont des mots qui étaient utilisés dans les campagnes, mais il y a quand même quelques mots qui nous sont restés, qui nous paraissent terriblement français, voire franchouillards, et qui sont d'origine gauloise.
Comme quoi ?
Bagnole. Bagnole, c'est d'origine gauloise. Ça vient de Béna. La Béna, c'était la caisse en osier. Mais la caisse en osier, du carrosse, du char, les Gaulois, le goût des Français pour les bagnoles est directement dérivé, semble-t-il, en droite ligne, du goût des Gaulois pour la charrie, sont d'excellents charrons. Et quand Rome va conquérir la Gaule, elle va récupérer les bagnoles gauloises, elle va récupérer les chars, les charrettes gaulois qui sont technologiquement très avancées. Et on en a conservé ce mot, c'est très étonnant, c'est un mot qui nous semble très moderne, et non, en fait, le concept même de prendre sa caisse, c'est un concept celtique.
Mais on oublie toujours à quel point de ce peuple, oui, on est toujours à parler de leur imaginaire, de leur mythologie, donc ce qu'on signalait, le temps qui s'abolit ou qui est variable, l'espace pareil qui se module, mais c'était des techniciens exceptionnels. Sans eux, on n'a pas de barrique quand même. On vit mal sans ça. Hein. Non, c'était... vous confirmez hein, l'amphore, c'est pas ça, ça casse. Le matelas, on leur doit le matelas. Les premières moissonneuses, batteuses, lieuses, pas tout à fait, mais ils mettent en place un système. Et puis, vous parliez effectivement de la richesse de la Gaule. La Gaule, pour les Romains, c'était la Gallia aurifera. C'était vraiment un pays très enviable, très riche, mais qui avait cette malédiction celtique qu'on va retrouver tout le long de l'histoire des Celtes, partout, l'incapacité à s'unir. Il n'y a que les Grecs qui font pire. Mais à peu près.
Oui, et ils s'entendent assez bien, enfin, sauf quand il y a quelques Celtes qui leur tombent sur le nez, oui. Mais ils s'entendent assez bien avec les Gaulois. Hein.
Mais de toute façon, je pensais à ça quand Estelle parlait de que ce n'était pas purement gaulois, au contraire. C'est vrai que les vrais liens des Gaulois et des Celtes, surtout, avec le monde antique, c'est avec la Grèce qu'il se fait, puisque, on le disait, les Gaulois n'écrivaient pas, les Celtes n'écrivaient pas, sauf leur écriture ogamique, mais qui était une écriture religieuse d'exécration ou de quelques formules mémorielles. Mais quand ils commencent à écrire, c'est ou de l'étrusque ou du grec. Ce n'est qu'après qu'ils vont passer à l'alphabet latin, parce qu'ils n'ont plus trop le choix, quoi, l'alphabet latin. Mais ils étaient plus liés avec les étrusques et avec les Grecs, philosophiquement, religieusement, peut-être commercialement aussi, parce que ces Celtes des premiers temps du 7-8e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, on a déjà un système commercial, et ça aussi c'est très étonnant, un système commercial, on envoie des matières premières de ce cœur de l'Europe, et on va les retrouver dans tout le bassin méditerranéen. Et on voit bien, par exemple, le vase de Vix, ce vase de Vix 6e siècle avant Jésus-Christ, cette pièce incroyable, est à décor étrusque. Il est dans une tombe de Champagne. Vous voyez, donc là aussi, il faut les replacer toujours dans un ensemble très complet où ils jouent leur part, où ils apportent un langage particulier et non négligeable. S'ils étaient si négligeables, on n'aurait jamais Jules César sur le paletot. Hein.
Une dernière question, Estelle Faye, par rapport à ces valeurs justement qui peuvent être communes entre ces peuples lointains et nous, est-ce que vous utilisez ça pour ce que je vais appeler ça l'identification, la littérature jeunesse, ça fonctionne en partie aussi sur l'identification, la proximité du héros et du lecteur. Vous utilisez ça ou vous fonctionnez
Alors disons, je pense que le lecteur, pour moi, est quelqu'un de... disons, qui a un esprit assez, assez affûté pour qu'on n'ait pas besoin de lui mâcher le travail. Et de toute manière, il y a justement dans toutes ces histoires, dans ces voyages initiatiques, dans ces histoires vraiment fondatrices de notre culture, elles sont restées aussi parce qu'il y a vraiment une vérité humaine, et une vérité humaine qui à la fois s'exprime d'une manière particulière dans une époque, mais qui transcende les époques aussi. Et cette vérité humaine qui transcende les époques, qui est par exemple donc ce parcours de l'adolescence, meurt de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, de toute manière, c'est évidemment un facteur d'identification. Il n'y a même pas à aller le chercher plus loin, où il n'y a pas à le forcer, il vient très naturellement. Et si je peux me permettre, quand vous parliez de voyage aussi, disons, oui, il y a une part évidemment celtique dans l'identité française, mais une chose qui est très belle dans cet imaginaire, dans cette culture celte, et qui justement me parle beaucoup, que je pense qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi un imaginaire, corrigez si je me trompe, mais qui relie justement notre territoire géographique, qui nous relie à d'autres territoires aussi. Et c'est vraiment un imaginaire qui nous sort justement de notre carcan géographique. Par exemple, tout à l'heure, vous évoquiez Tristan et Iseut, et quand même, Tristan et Iseut, c'est beaucoup des histoires de voyage, ne serait-ce que la scène centrale vraiment de Tristan et Iseut, la scène où donc ils boivent le filtre d'amour. C'est une scène où ils sont bloqués sur la mer, en fait, où ils se retrouvent finalement entre deux pays, où ils se retrouvent donc entre deux territoires. Et c'est là qu'il y a l'image centrale du roman, qui est cette image de la ronce qui pousse dans le corps de Tristan. Et finalement, c'est quelque chose qui transcende justement aussi nos identités nationales. Et c'est quand même assez précieux justement de garder cette idée que cet imaginaire, comme tous les grands imaginaires, avant tout, relie des hommes entre eux, relie des pays entre eux, autant qu'il forge des identités nationales. Voilà, enfin, si je peux me permettre.
Je vais aller d'autant plus dans votre sens, c'est tout à fait exact. Il relie, mais il relie aussi des choses qui sont latentes. Moi, une chose qui m'avait frappée, je me suis retrouvée par un heureux hasard au Burkina Faso, dans la province de la Tapoa. Et soirée, il n'y avait pas encore l'électricité, donc on racontait des histoires comme autrefois. Et moi, j'avais à quoi raconter? Ben, j'arrivais de Bretagne, j'ai parlé de la forêt de Brocéliande. Et j'ai eu tout de suite un groupe qui s'est mis à me parler de leur forêt sacrée d'initiation, où les jeunes gens étaient emmenés pour ces initiations, pour être initiés, pour devenir des guerriers. Bon, on va avoir un peu le même phénomène au Kenya avec les Moranes. Et je me disais, on en a conclu tous que, au bout du compte, quand nos chevaliers, je dis nos chevaliers arthuriens, se lancent un par un, parce qu'on part tout seul à l'aventure dans la forêt et qu'ils vont en ressortir transformés, devenus eux-mêmes, je disais la même chose que ses amis africains, quand ils envoyaient leurs jeunes garçons se faire initier dans la forêt et en ressortir hommes. Et c'est justement, vous disiez, on relie avec, on a des formes différentes et au fond, on relie aux autres imaginaires parce qu'il y a toujours ce point de convergence qui fait qu'on est face au même mystère, déjà le mystère de l'existence du monde, avant même de se demander pourquoi on est là, le fait que le monde soit là. Et je pense aussi que tous ces récits, c'est l'apprivoisement du monde. C'est essayer de s'y lier, de trouver les étapes intermédiaires qui vont faire qu'on n'est pas un truc complètement perdu, anonyme et affolé par le monde, mais nous y faire rentrer. Je pense que ces récits-là sont très forts pour ça.
Oui, c'est apprivoiser le monde, et en apprivoisant le monde aussi, mine de rien, s'apprivoiser soi-même, en fait. Justement, et comprendre aussi, quand on passe, par exemple, donc, entre le monde celtique, le monde romain et autres, ça me permet aussi vraiment de se demander ce que c'est qu'une identité, comment une identité est faite d'énormément de couches de culture, de couches aussi de rapport justement à la nature, de rapport à la ville. Et dont toutes ces couches, justement, il y en a certaines qu'on assume plus ou moins que d'autres, il y en a certaines qu'il faut plus déterrer que d'autres. C'est clair que la couche celtique, à certaines époques ou dans certains imaginaires, il fallait vraiment creuser pour la déterrer parce qu'elle était quasiment plus, était à peine consciente. Mais justement, quand on la retrouve, on comprend aussi mieux une part de soi-même et on peut d'autant plus grandir à partir de ça.
Merci. On va devoir se séparer pour laisser la place au débat suivant. Je vous remercie pour ces passionnants échanges.
Moi, je suis très dernier content d'être venu parce que je sais maintenant pourquoi j'emmène ma bagnole à Midas.
Merci beaucoup.